Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Nous sommes en Moldavie, le 27 août 1991, quand le pays choisit son chemin libre et souverain. 34 années d'indépendance et une voix s'impose dans le paysage politique. Maia Sandu, présidente d'un pays qui se voit comme un pont entre l'Est et l'Ouest. On retrouve François Vantôme pour mieux connaître celle qui porte les espoirs d'une Moldavie résolument tournée vers l'Europe, tout en restant au cœur d'un front géopolitique complexe. Alors François, quelle était la jeunesse de Maia Sandu ?
Maia Sandu est née en 1972 au sein d'un pays qui connaissait les derniers soubresauts de l'ère soviétique. Son parcours, dès l'enfance, est marqué par une curiosité intellectuelle et un goût marqué pour les sciences et l'économie. Elle grandit dans un cadre qui valorise l'éducation comme levier de transformation sociale. Cette confiance profonde dans le pouvoir des idées et du savoir deviendra le fil rouge de sa trajectoire. Une femme qui croit qu'un État se réinvente par l'instruction, l'égalité des chances et la transparence des institutions. Elle a étudié à l'Academy of Economic Studies en Moldavie et a poursuivi ses études à la Harvard Kennedy School. Dans ses années d'études, elle choisit l'économie comme langue pour comprendre les mécanismes qui gouvernent les vies quotidiennes, les salaires, les budgets, les services publics, et pour imaginer des réformes capables de réduire les injustices et d'améliorer le quotidien des Moldaves.
Alors, sa carrière l'emmène très rapidement en politique.
Sur le plan professionnel, Maia Sandu se forge comme économiste, on l'a vu, et réformatrice. Son parcours l'amène à s'impliquer intensément dans les domaines de l'éducation et de l'administration publique. Son passage notamment par le gouvernement en tant que ministre de l'éducation à partir de 2012 est marqué par une volonté de moderniser le système, de lutter contre la corruption et de mettre l'école au cœur du développement social et économique. Cette période lui donne une expérience concrète des défis du secteur public et de la nécessité des réformes courageuses, même lorsque les résistances sont fortes. Alors parallèlement, elle devient une figure centrale de l'opposition pro-européenne en Moldavie et cofondatrice du parti Action et Solidarité, PAS, qui place l'état de droit, la réforme des institutions et l'intégration européenne au cœur de son projet politique. Son langage est clair, les institutions fortes et les politiques publiques fondées sur des preuves peuvent changer le destin d'un pays dont les habitants aspirent à la stabilité, à la prospérité et à la sécurité.
Quelques années plus tard, tout change quand elle accède à la présidence.
En 2016, Maia échoue au rendez-vous de la présidence. Elle perd au second tour face à Igor Dodon et cela marque une étape importante dans son combat pro-européen. Elle plaidait en effet pour une Moldavie plus transparente et plus moderne. En 2019, elle devient la première femme à diriger le gouvernement moldave, mais son passage au poste de Premier ministre dure quelques mois avant sa démission face à une crise politique. C'est 4 années plus tard, en 2020, qu'elle remporte l'élection présidentielle avec environ 58% des voix au second tour. Elle devient donc la première femme présidente de la Moldavie. Son arrivée au pouvoir est présentée comme l'aboutissement d'une dynamique de réforme, mais aussi comme le début d'un effort soutenu pour faire converger le pays avec l'Union européenne, tout en gérant les équilibres fragiles avec les voisins et les pressions géopolitiques qui pèsent sur la région. Son mandat est marqué par une priorité, renforcer l'État, lutter contre la corruption et rapprocher la Moldavie des standards européens, tout en restant consciente des défis internes et des tensions régionales.
Alors depuis l'invasion de l'Ukraine et les évolutions de la sécurité dans l'Est européen, Maia Sandu se voit comme une leader qui défend la souveraineté et l'intégrité européenne de la Moldavie.
Le statut de candidat à l'Union européenne acquis récemment symbolise un cap clair pour la Moldavie, une trajectoire d'intégration européenne qui guide les réformes et les choix politiques. Est-ce que la Moldavie craint une invasion russe ? Oui, il existe une inquiétude légitime, mais ce n'est pas une menace imminente. Le risque est surtout hybride et politique. Sur le terrain, les pressions russes se font sentir par différents canaux. Campagne de désinformation, enjeux autour de la région séparatiste de Transnistrie et outils d'influence économique et politique. Face à cela, Maia Sandu et son gouvernement répliquent avec une grande résilience, renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, mener des réformes judiciaires, fortifier les institutions et élargir les partenariats pro-européens. L'objectif demeure ambitieux, mais clair. Préserver l'unité nationale, garantir le droit pour les Moldaves de choisir librement leur avenir et démontrer que la Moldavie peut se rapprocher de l'Europe tout en restant résolument indépendante face aux pressions extérieures.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
C'est Léonie Pernet avec le pas de l'au-delà en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Alors, on va parler de photographie maintenant, deuxième partie de l'entretien avec Franck Gazzola sur la photographie des fonds marins.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Comment vous en êtes venu à photographier les fonds marins ?
Bah, j'étais toujours passionné d'océan, comme je vous le disais, le surf, la planche à voile, tout ça, c'est un environnement qui me passionnait beaucoup. Je me suis mis à faire des photos aussi dans l'eau, justement pour faire des photos notamment de sports de glisse, etc. Et puis un jour, je collaborais pour cette galerie à Sydney. Le propriétaire de cette galerie me dit « Je déménage, je pars à Newcastle, je vais fermer la galerie ». Et là, c'était un espèce de coup de massue. Je me disais, oh, c'est pas possible. Ça faisait 2 ans que je collaborais avec lui, et puis mes images commençaient à se vendre, et puis je commençais à avoir vraiment un but pour faire des images. Mes images commençaient à être un peu meilleures. Je commençais à avoir un peu plus d'expérience, et donc ça m'a mis un coup de massue. Je me disais, oh, mais si ça s'arrête. Bon, bref, j'ai racheté la galerie. Et je faisais ça en plus de mon travail de cadre dans une grosse boîte. Et j'ai racheté la galerie et j'ai dû refaire le site internet. Et pour refaire le site internet, on m'avait mis en rapport avec en relation avec un Français qui était installé à Sydney et qui faisait des sites web. Et il me demande, le jour où on se rencontre, c'est quoi ton rêve de photographe? Et j'y avais jamais vraiment pensé, mais je lui ai dit spontanément, écoute, moi, quand j'ai grandi en regardant Jacques Cousteau. Tous les dimanches, je regardais Cousteau et puis je regardais Thalassa le vendredi soir. Donc voilà, les aventures de Cousteau, aventures au long cours, où il y a un aspect découverte, il y a tous ces aspects-là de travail d'équipe et tout ça, c'est quelque chose qui me parle. Et il me dit, c'est incroyable que tu me dises ça, je connais ce couple de Français qui s'appellent Emmanuel et Guilain Bardou. C'est des explorateurs sous-marins, mais c'est aussi des explorateurs polaires. Donc ils explorent non seulement les fonds marins, mais ils explorent aussi sous les glaces. Et ils sont en ce moment même au nord du Groenland en expédition sur leur bateau avec leur équipe, en train de faire de l'exploration sous-marine polaire. Et il me dit, si tu veux, je peux te mettre en relation avec eux. Je peux faire un email d'intro. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il fait cet email d'intro, et moi, bah, j'ai envoyé un email, deux emails, cinq emails. Et un jour, j'ai eu une réponse de leur part, me disant, on a déjà un photographe, mais on aurait besoin d'un deuxième photographe pendant une période donnée, pendant l'hivernage du bateau, qui sera pris dans les glaces, sur la côte ouest du Groenland. Et on a fait un Skype. J'ai eu le job. J'avais jamais plongé, vraiment. J'avais eu fait mon open water, donc c'est le niveau vraiment zéro de la plongée. Et bah là, j'avais 6 mois, et pendant 6 mois, je suis allé faire de la plongée tous les week-ends. Je suis allé au club de plongée à côté de chez moi. Je leur ai dit, voilà, j'ai ce job incroyable. Je vais partir avec ces explorateurs sous-marins au nord, à l'ouest du Groenland. Est-ce que vous pouvez me former? Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses ça, 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 ça. Et donc là, j'ai mangé, mangé, mangé de la plongée pendant 6 mois. J'ai acheté un caisson et puis je m'y suis mis comme ça. Et je suis parti au Groenland pendant 3 mois avec eux, pendant que le bateau était en hivernage, donc pris dans les glaces, pris dans la banquise pendant toute la durée d'hiver. Et je les ai rejoints à ce moment-là et j'ai fait de la plongée sous la banquise avec eux. Et j'ai fait mes premières images, vraiment mes premières images sous-marines, je les ai faites là-bas avec eux. Donc j'ai commencé un peu par le plus dur.
Oh,
Et
c'est
puis,
violent pour commencer, oui.
ouais, c'était violent pour commencer. Et j'ai commencé en fait avec eux comme ça. Et puis, ça m'a mis le pied à l'étrier là-dessus, sur une nouvelle discipline que je connaissais assez peu. Et j'ai continué à me former. Et puis 18 mois, même pas 18, 12 mois plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire, est-ce que tu veux devenir notre photographe officiel? Et on part pour 3 ans autour du monde, de l'Arctique à l'Antarctique, en passant par le Pacifique. Et j'allais devenir leur photographe officiel. Donc là, on partait pour des missions longues. Et là, la plongée, j'allais en faire beaucoup. Et de la plongée et des photos sous-marines, j'allais en faire énormément. Et donc je me suis un peu de facto spécialisé comme ça en suivant cette expédition. Parce que c'était tout le cœur de métier de cette expédition, c'était le travail de découverte des fonds marins pour des scientifiques.
Je fais un aparté parce qu'on va revenir sur les fonds marins. C'est vraiment ce qui m'intéresse là dans l'interview. J'imagine que pour faire cette expédition, d'une, vous avez démissionné de votre poste de cadre pour vous concentrer uniquement là-dessus. Mais comment ça s'est passé avec votre famille?
Oui, j'ai oublié de dire, mais oui, c'est ça. Ça m'a. En fait, c'est la première fois que je faisais une mission qui m'a forcé à démissionner. Tout ce que je faisais avant, je prenais des jours de congé, puis j'allais shooter une pub dans la ciné. Je shootais les week-ends des mariages. Parfois, j'allais faire des images de surf à Fidji. Je partais une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je le prenais sur mes congés, donc j'arrivais toujours réussi à ménager les deux. Mais là, en effet, quand je suis parti au Groenland pour 3 mois, c'était le moment où je me suis dit, bon, allez, c'est maintenant ou jamais qu'il faut sauter le pas et puis faire un saut dans le vide. Et c'est ce que j'ai fait.
Et votre femme,
Au
quand vous avez
départ,
3 ans?
quand j'ai fait ça en 2015, on était mariés, mais on n'avait pas d'enfant. Donc c'est pas quelque chose qui était insurmontable. En tout cas, elle m'a laissé cette liberté. Elle m'a toujours soutenu en fait dans ce choix. Après, la première fois que je suis parti, je partais pour je sais plus 2 mois et demi ou 3 mois. Tout me poussait à dire que c'était un one-off, que c'était une fois dans la vie. Jamais je me voyais avoir cette chance de continuer à faire des expéditions répétées, d'aller travailler comme ça aux quatre coins du monde. Je pensais que j'allais revenir à Sydney, que j'allais faire des mariages, des photos institutionnelles, des choses que je faisais déjà un petit peu. Plus la galerie photo sur des images d'océan et tout ça. Mais je pensais pas que j'allais faire ça. Donc c'était un one-off. Donc elle m'a soutenu. Elle m'a dit oui, vas-y, c'est génial. Ce qui a été plus dur, c'est après, c'est de revenir et dire, ah, finalement, c'est plus un one-off. Là, je vais partir pendant 4 mois faire le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire la traversée de l'Arctique, en gros, de l'Europe à l'Asie. Donc tout le tour depuis le Groenland, tout le tour par le nord jusqu'à l'Alaska. Ça c'était une deuxième épreuve. Enfin, celle-là, ça devenait plus réel parce que ça devenait quelque chose de pérenne, en fait. Ça allait devenir un modèle de vie, un lifestyle. Et là, c'était un peu plus dur. Là, ça demandait plus d'organisation. Et puis il fallait se faire l'idée que c'était quelque chose qui était là pour durer. Puis après, je suis parti en Polynésie. Puis là, c'était plutôt 5 mois. Et puis voilà. Donc ça a été répété depuis. Ensuite, il y a eu la naissance de ma fille. Et donc, quand notre fille Poppy était dans la photo, ça devenait plus compliqué forcément de faire des expéditions. Donc la première année où ma femme était en congé de maternité, j'étais en mission pendant 5 mois en Polynésie française. Elles sont venues avec moi. Ça a été possible parce qu'on était à un endroit, on n'était pas sur un bateau. Mais après, les expéditions sont souvent au long cours sur un bateau et c'est hyper rare que ma famille, enfin c'est à part cette fois-là, ma famille ne peut pas être avec moi.
Oui,
Donc
sinon c'est compliqué.
voilà, ça devient très dur. Donc l'année dernière, il y a 4 ans, en 2022, on a commencé avec Emmanuel Guilain Bardou, qui sont les cofondateurs de ce projet qui s'appelle Under the Pole. J'ai oublié de le mentionner avant. Le projet s'appelle Under the Pole, qui a commencé par de l'exploration sous-marine polaire et qui maintenant en fait déploie ses capacités de découverte et de plongée scientifique partout dans le monde. Cette expédition Under the Pole en 2022 a commencé un programme d'une dizaine d'années, avec des expéditions qui ont lieu tous les ans à des endroits différents de la planète. On avait commencé par l'Arctique, au Svalbard, et j'avais fait 2 mois et demi sur cette expédition. Et je me suis dit, c'est trop long pour la famille, c'est trop long pour moi, c'est trop long pour ma petite, c'est trop long. Donc j'ai décidé un peu de changer le rythme et de limiter mes déplacements à 1 mois à chaque fois.
Un dernier mot sur les fonds marins. On arrive malheureusement déjà en fin d'interview, alors qu'on pourrait parler de ce sujet pendant des heures. Vous partez en expédition parfois dans les pôles, mais parfois sous l'eau. On l'a mentionné. Je voudrais qu'on parle rapidement parce que c'est pas passé inaperçu. Évidemment, il n'y a pas longtemps dans l'actualité, on a parlé du blanchiment record de la barrière de corail en Australie. On pense tous que les fonds marins à travers le monde se dégradent avec le dérèglement climatique. Bien sûr, en tant que photographe, vous pouvez pas analyser scientifiquement ça, mais quel est votre témoignage là-dessus, vous, de ce que vous voyez? Par exemple, hors micro, vous me racontiez cette anecdote qui fait sourire, que vous aviez vendu un sujet sur la dégradation des fonds marins et qu'en fait vous êtes revenu à la surface plutôt avec une bonne nouvelle.
J'avais fait un reportage 2 fois sur la Grande Barrière de Corail et puis sur une scientifique qui s'appelle Emma Kemp, qui est une scientifique basée en Australie et qui fait un travail exceptionnel sur qui travaille sur la résilience des coraux, qui essaie de comprendre où sont les coraux résilients et qui essaye justement de trouver des réponses aux problèmes que vous évoquiez comme le blanchissement. Dans le cadre de son travail sur la Grande Barrière, elle a créé des nurseries pour justement refaire des boutures et essayer de faire de voir à quel point certains coraux endommagés pouvaient repartir. Et puis elle s'en sert pour replanter à des endroits qui souffrent. Et puis oui, j'avais en effet fait ce reportage 2 fois et je savais exactement comment cadrer le reportage, comment cadrer certaines images pour raconter toute l'histoire en une image. Il y a 2 ans, pour Thalassa, donc l'émission française que je regardais quand j'étais petit, j'ai travaillé pour Thalassa sur ce même sujet, sur cette même scientifique, et j'avais dit en effet à la réalisatrice, j'avais dit, je sais qu'à côté des nurseries, j'y étais il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, il y a un plan qu'on peut faire où en amorce on aura des coraux très endommagés, et derrière on a les nurseries donc qui passent le message du travail qui est fait. En une image, on a les deux parties de l'équation. En tout cas, du travail qui est fait, pourquoi il est fait. Et puis, en arrivant sous l'eau, je me suis rendu compte que ces coraux qui étaient si endommagés, qui avaient l'air morts 2 ans avant, avaient en effet repris. Et je me suis dit, ah bon, on n'aura pas notre plan, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, je pense que oui, il y a des bonnes nouvelles dans l'ensemble. Ce que je vois, c'est que moi, c'est juste mon témoignage, c'est que oui, il y a des bonnes nouvelles de temps en temps. On voit que ça reprend bien. Mais malheureusement, ces épisodes de blanchissement, ils se rapprochent les uns des autres et ils laissent peu le temps aux coraux de récupérer. Donc ils ont une force de récupération, ils arrivent parfois à rebondir, mais si ces épisodes de blanchissement se resserrent les uns des autres, malheureusement, on va vers une mauvaise nouvelle générale. Donc oui, il y a des bonnes nouvelles comme ça de temps en temps. Mais ça n'empêche que la tendance, elle est quand même plutôt mauvaise. Voilà. Et c'est quelque chose que moi, j'ai pu constater à plusieurs moments, dans plusieurs endroits du monde, sur les récifs. Et puis on demande aux locaux, on en parle, et comment était le récif? Ah, il y a 10 ans, c'était mieux. Et puis il y a eu une maladie. Ah, puis il y a eu un ouragan. Ah, puis il y a eu le blanchissement. Et malheureusement, on voit que dans l'ensemble, les fonds souffrent énormément. Maintenant, il y a des différences aussi en fonction des étages, en fonction de la bathymétrie, en fonction de la profondeur à laquelle on se trouve. Et c'est là où le travail que fait Under the Pole notamment prend du sens. C'est que on connaît très peu ce qui se passe au fond, et c'est le travail d'Under the Pole d'aller voir au fond. Et au fond, parfois, on voit que les choses sont plus stables. En tout cas, ça souffre un peu moins. Et donc, les fonds méritent aujourd'hui d'être protégés. Malheureusement, on les connaît pas assez. Et c'est là où nous, le travail d'Under the Pole, il est crucial. Il faut qu'on puisse donner un peu plus de temps à cette zone qu'on appelle la zone mésophotique, qui est un peu plus profonde et qu'on connaît malheureusement assez peu parce qu'elle est hors de portée de la plongée conventionnelle et de la plongée classique. Donc, ce qui est en surface est souvent très exposé à la pollution, aux activités anthropiques, à l'acidification, etc. Et plus on va pour l'instant, plus on va en profondeur, moins ces impacts sont encore notables, même s'ils le sont déjà. Mais on a un peu plus de temps pour réagir, alors qu'il y a des endroits en surface où ça y est, c'est presque trop tard déjà.
Merci beaucoup, Franck, pour votre témoignage, puis d'avoir partagé également votre parcours très inspirant et votre vie de famille. Merci beaucoup, Franck.
De rien, avec plaisir.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Doré et toutes les femmes de ta vie en ce dimanche sur Radio SBS. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives. Alors, on est ici avec Louise. Vous avez une histoire un petit peu singulière. Vous êtes française, mais vous êtes mariée dans la culture aborigène.
C'est ça, exactement. Donc, mon mari est aborigène. Il vient de Tasmanie. Et en fait, quand on a eu des enfants, on a découvert cet endroit où c'est tout à propos de la culture aborigène. Donc nous, on vient tous les mercredis pour le Bush Playgroup, ça s'appelle, et donc on apprend les contes aborigènes. Voilà, les contes aborigènes, donc on chante, on danse, oui, c'est super, ouais, c'est ma deuxième maison.
On entend les enfants derrière, c'est important pour eux aussi, je suppose.
Oui, très important, c'est très important pour eux et pour moi aussi, parce que c'est leur héritage, ça fait partie d'eux, et ouais, c'est...
Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire singulière. Vous vous êtes rencontrés, vous ne saviez pas forcément qu'il était aborigène à l'époque. Comment ça s'est passé?
Alors, on s'est rencontrés en fait sur... Donc moi, je voyageais en Australie juste en tant que backpacker. Donc voilà, je faisais le tour de l'Australie. Et je me suis retrouvée sur French Island, donc qui est une petite île pas très loin d'ici. Et il travaillait là-bas. Et on s'est rencontrés comme ça. Et on est plus ou moins tombés amoureux. Enfin, plus ou moins, voilà.
Plus ou moins.
Ouais. Alors, on est tombés amoureux. Et en fait, et donc, je me suis retrouvée ici. Voilà, je me suis dit, bon, bah, il est pas mal. J'aime bien ce pays. Voilà, je vais rester ici. On a eu des enfants. Et après, c'est... Parce que lui, en grandissant, il n'a jamais été en relation avec les aborigènes. Jamais. Vraiment. Et pour moi, c'était important que mes enfants, étant aborigènes, qu'ils aient cette culture, que ça fasse partie d'eux. Et donc, c'est pour ça que je l'ai poussé à, voilà, à s'introduire un peu, à chercher, à se... Voilà. Et donc, c'est comme ça que... Voilà.
Et vos parents dans tout ça, c'est quoi leur réaction?
C'est dur pour eux qu'on soit si loin, mais ils adorent. Ils adorent la culture. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils adorent. Mon père est venu ici plusieurs fois et à chaque fois, je sais pas, il y a une émotion ici, il y a un, je sais pas, une vibe.
Mais pour le coup, ils ont aussi une expérience australienne qui est peut-être différente d'autres parents qui ont des enfants français qui ont décidé de rester ici, parce que vous êtes vraiment intégré au cœur de la Première Nation, en fait.
Oui, c'est vrai, c'est un bon point. J'ai pas pensé comme ça, mais oui. Et ils apprennent aussi. Parce que moi, j'apprends aussi, j'apprends avec mes garçons. Quand ils viennent ici, ils apprennent, et moi aussi, j'apprends. Et je pense que mes parents aussi, et c'est un beau cadeau, je pense, pour eux et pour moi.
Et cette culture aborigène, est-ce qu'elle a été un peu compliquée à intégrer? Parce que on n'a pas ça dans le sang. Mais vous devez apprendre ça tous les jours. Donc il y a des faux pas, on fait des erreurs. Est-ce que c'est un peu ça aussi?
Oui, c'est un petit peu ça. Oui, on apprend en faisant des faux pas. Et je pense que pour eux, donc par exemple, si un jour vous demandez une mauvaise question, un faux pas, ou voilà, vous faites un faux pas, je ne pense pas qu'ils vont vous en vouloir. Parce que je pense qu'ils y sont passés par là aussi, parce que beaucoup de personnes qui viennent ici ne sont pas donc full blood, comme on dit, aborigènes. Ils sont, par exemple, c'est leurs ancêtres qui étaient aborigènes. Donc c'est pareil, ils viennent ici parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent savoir d'où ils viennent. Et voilà, en faisant des faux pas, on apprend. C'est ça. Voilà.
Un peu comme avec les beaux-parents.
Exactement pareil. Voilà. Exactement pareil. Ouais.
Oui. En tant qu'étrangère, vous, si on fait un peu le point là-dessus, ces big cook-up, cette relation avec la population aborigène, ça veut dire quoi pour vous? Parce que vous dites, vous apprenez, etc. Mais il y a sûrement une soif d'apprendre, c'est clair. Mais est-ce que c'est encore très impressionnant?
Je pense que c'est beaucoup du respect aussi, parce que les indigènes, donc les indigènes d'Australie, c'est une population, enfin c'est peut-être la plus ancienne civilisation du monde. Et je pense que d'avoir ça dans leur sang, c'est juste c'est énorme. Enfin, c'est énormément de j'ai énormément de respect, et donc c'est pour ça que je suis juste, à chaque fois que je viens ici, c'est beaucoup de respect. Et de
est-ce que si vous pincez un petit peu, vous repensez à la petite Louise qui avait 5, 6, 7 ans, ça veut dire quoi dans vos têtes?
Vous m'aviez dit que alors oui, dans 20 ans tu habiteras en Australie, Louise, tu auras deux enfants qui font partie de l'héritage aborigène. Mais oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui.
Pour vous, c'est la maison ici?
Oui, c'est ma maison. Ouais. Ouais, c'est ma maison.
Merci, Louise.
Je vous en prie, merci.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Jamais je n'oublierai la couleur de ton île, le bleu vert du lagon immobile, les routes dévalées dans les matins d'avril, l'air est doux quand on est en exil. Jamais je n'oublierai l'immensité sauvage, le rose sur les murs du village, la lenteur. La lenteur.
Jeanne Chiral et sa chanson Rodrigue. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.u/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.u/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.